Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission, je vais vous présenter l'autre grand thème qui sera abordé dans ce podcast, qui est le mouvement slow ou la vie plus lente. L'idée de ralentir fait partie intégrante de la simplicité à mon avis. Simplifier son agenda, désencombrer notre liste de tâches et les pensées qui encombrent notre tête est aussi important à mon sens que de revoir nos modes de consommation et les objets qui nous entourent. Surtout dans un environnement moderne et urbain, où tout s'accélère, où les technologies et la pub promettent tout, tout de suite, et où être débordé est un signe extérieur de réussite sociale. Il y a quelques semaines, j'ai été invitée à un mariage où j'ai eu l'occasion de parler avec une amie de la mariée. Contrairement à beaucoup d'amis communs qui sont allés chercher du travail dans les grandes villes, elle est restée dans la petite ville d'Alsace où elle a grandi. Elle m'a expliqué que lorsque ses amis qui ont déménagé à Strasbourg ou à Paris viennent, elles sont toujours pressées. Elles ont toujours un œil sur le téléphone, s'il n'y a pas de réseau ou de wifi, c'est la catastrophe, elles ont un rythme effréné, elles sont toujours stressées, elles ne profitent pas du moment présent, etc., etc. Et c'est quelque chose qui a vraiment marqué cette amie qui, elle, est restée dans un environnement plus lent, plus rural, etc. Et c'est vrai que moi qui me considère comme quelqu'un d'assez posé depuis que je m'intéresse à la simplicité, je me suis rendu compte que plusieurs des choses qu'elle décrit, notamment le manque de connexion internet, s'appliquent encore à ma vie urbaine et active. Et c'est vrai que c'est en écoutant le point de vue de quelqu'un d'externe qui a su garder quelque part son juste rythme de vie, qu'on prend conscience de cette accélération qui n'est pas forcément naturelle. Et dans l'essence, c'est ça le slow en fait. Donc slow qui veut dire lenteur en anglais pour ceux qui parlent pas du tout anglais. En fait, le slow, c'est apprendre à vivre à son propre rythme. C'est-à-dire ne pas se laisser entraîner par la course folle des gens pressés, des dates limites, des urgences imposées par tout le monde tout le temps. De pas se laisser entraîner et distraire par les technologies modernes, toujours plus rapides, toujours plus instantanées. Et vraiment, voilà, garder son juste rythme et savoir continuer à profiter de la vie. Parce que mine de rien, nous vivons dans une culture du tout, tout de suite. Dans la consommation, et c'est là qu'on retrouve le lien avec le minimalisme que je vous ai présenté dans l'épisode précédent, il faut acheter tout ce qu'on veut maintenant. Vous avez des services comme Amazon Prime qui permet de se faire livrer en 24 heures en payant un peu plus cher. Vous êtes tellement pressé qu'en plus vous pouvez même pas attendre que le colis vous arrive en 2-3 jours, il faut qu'il arrive en 24 heures. N'attendez pas, profitez de cette réduction exclusive et limitée dans le temps. Vous n'avez pas d'argent, n'attendez pas, faites un prêt à la consommation. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui fait de nous des enfants capricieux. Un peu comme les enfants qu'on voit souvent dans le supermarché faire un caprice auprès de leurs parents pour obtenir tel jouet ou tel objet qu'ils ont vu dans les rayons. Et en tant que parents, on a quand même ce rôle de dire aux enfants « Bah non, là, l'objet, tu vas pas l'avoir, c'est un caprice. » Mais de notre côté, on vit dans une société où nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous sommes encouragés à céder à ces caprices et à acheter tout, tout de suite. Cette culture du tout tout de suite et de l'accélération se retrouve aussi dans le travail. On a quand même une culture de l'immédiateté qui est très très présente au travail. C'est-à-dire qu'il est loin le temps où nous devions envoyer une lettre papier, attendre que la poste fasse son office, attendre que la lettre soit traitée, attendre que la réponse soit envoyée par la personne, ou quelque part on laissait quelques jours aux gens. On savait que ces choses-là prenaient du temps et on laissait un petit peu le temps au temps. Et avec les améliorations de la technologie, qui sont quand même des améliorations, on ne va pas tout rejeter, hein. Il a fallu ensuite à peine quelques heures par télégramme, puis il y a eu le fax, et puis maintenant il y a l'email. Alors ça a beaucoup de très très bons côtés, mais l'un des inconvénients principaux de l'email, c'est que tout s'envoie instantanément. Et c'est pas seulement le mail, c'est qu'on a les SMS, on a les chats, on a des moyens technologiques qui nous permettent maintenant de communiquer de manière immédiate avec les collègues, les clients, les subordonnés, les partenaires, les prestataires, les fournisseurs, peu importe. Et le problème de ça, c'est que du coup, on envoie une info immédiate et on attend une réponse immédiate. Tous les projets sont pour hier. Tout est urgent, tout est important. Et puis on attend tous de nos collègues, de nos prestats, etc., qui répondent tout de suite et qui soient au maximum de leur efficacité tout le temps. Et c'est vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans le travail maintenant, tous les gens avec qui on travaille attendent de nous qu'on lise nos mails tout de suite, qu'on réponde aux SMS tout de suite, qu'on réponde au chat tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une véritable pression qui se crée, qui fait qu'il faut, il faut tout faire maintenant. On est, voilà, on n'a plus le temps, quoi. Et ça, c'est, qu'est-ce que ça cause ? Ça cause du stress. Je me souviens de la première fois que j'ai obtenu mon téléphone professionnel, qui était un BlackBerry à l'époque. J'étais vraiment super fière, c'était mon premier job et tout. Je me disais, ça y est, je suis dans la cour des grands, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de professionnel, j'ai mon BlackBerry, etc. Et en fait, la conséquence de ces menottes technologiques, c'est que je me retrouvais à garder un œil sur mon téléphone en permanence, le soir, le week-end, etc. Parce que maintenant, j'avais plus d'excuses pour ne pas répondre à un mail instantanément à n'importe quelle heure du jour, du week-end, etc. Alors, sachant que moi, j'avais pas forcément des chefs qui me mettaient la pression, hein, sur que je pouvais répondre le lundi en revenant, mais l'existence même de cet objet, le fait même que j'avais à portée de main un accès à mes emails, créer cette espèce de sentiment d'urgence et de nécessité de l'instantané. Donc nous, et ça c'est vrai dans la communication et les technologies en général. Donc là on va sortir de la sphère professionnelle et même dans le perso, les technologies de communication sont de plus en plus demandeuses de notre attention immédiate. On a des notifications sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone portable. Dès que quelqu'un nous met une photo de bouffe sur Instagram, paf, viens voir la photo de bouffe. C'est pareil sur Facebook. Dès qu'on reçoit un message, que ce soit SMS, Messenger, WhatsApp, etc. Un commentaire, une réponse, une mention, un like. On est notifié de tout le temps. Et en fait, ça veut dire que nous sommes tout le temps sollicités et vu l'instantanéité du net, il nous est demandé de répondre tout de suite maintenant. Sinon, on va rater l'info, on va rater l'occasion. Ou sinon, peut-être que les amis vont être vexés parce qu'on répond pas tout de suite. Donc, il y a vraiment cette notion d'instantanéité de toutes les communications qui fait qu'il faut tout faire tout de suite, tout répondre tout de suite. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote lorsque j'étais ado, où les SMS étaient en plein boom à l'époque. Et donc c'était il y a une quinzaine d'années, un peu plus. Et j'échangeais souvent avec un garçon de ma classe, dont je me rends compte maintenant qu'il avait probablement des velléités reproductrices, dont je n'avais pas conscience à l'époque. Mais en tout cas, je me souviens qu'un jour, il m'avait envoyé un SMS qui était assez long. Et du coup, j'étais en train de lui faire une réponse assez longue. Et pendant que j'étais en train de galérer avec mon clavier numérique, là où il fallait appuyer plusieurs fois sur les touches pour obtenir la lettre qu'on voulait, etc. Là, je vois une réponse. « Bah alors, tu me réponds pas ?»« Ah mais laisse-moi le temps, Coco !» Il fallait que ça tape plus vite que la musique, il fallait que le SMS il arrive tout de suite maintenant sur l'écran. Et là, je vous parle d'une anecdote qui date de plus de 15 ans. Imaginez comment c'est aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de choses comme ça, il n'y avait pas d'Internet sur le téléphone, quoi. Voilà, donc la conséquence générale de tout ça, c'est qu'on est pressé. Rien ne va jamais assez vite à notre goût. Cette lenteur nous est insupportable, ça nous fait stresser, ça nous fait pester, ça nous fait swinguer les hormones, comme dirait Serge Marquis, c'est-à-dire qu'on se retrouve à pester devant le micro-ondes parce qu'il ose mettre 3 minutes à réchauffer notre nourriture, là où il y a quelque temps il aurait fallu une demi-heure ou une heure. Mais cette accélération est-elle vraiment inéluctable ? Ensuite, un autre aspect de la société moderne important à prendre en compte dans ce mouvement slow, à mon sens en tout cas, c'est la relation que l'on entretient avec le temps et l'argent. Alors vous avez sûrement entendu la maxime qui dit « le temps c'est de l'argent », mais qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie entre les activités que nous pratiquons. Celles qui rapportent de l'argent sont productives, elles sont valables, elles sont une bonne utilisation de notre temps. Mais par contre, celles qui ne rapportent pas d'argent sont une perte de temps. C'est du temps mort, comme on dit. Vous voyez, le vocabulaire est très important quand on y prête attention. Le problème, c'est que ça entraîne une vision qui est très biaisée de ce qu'on entend par gagner du temps, perdre du temps, etc., etc. Ça veut dire que rester tard au travail et répondre à ses emails le soir, ça c'est du temps productif, donc c'est du temps qui est bien, parce que ça permet de gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à l'entreprise, donc c'est profitable. Par contre, prendre le temps de dîner avec sa famille, de raconter des histoires à ses enfants, d'écouter la journée de travail de son époux ou de son épouse, c'est quoi ça ? C'est une perte de temps alors, puisque ça rapporte pas d'argent. Et en fait, cette notion de « le temps, c'est de l'argent », ça nous incite à gagner du temps sur tout ce qui est une perte. Donc faire les courses plus vite, se faire livrer, ne plus prendre le temps de cuisiner, se dépêcher dans les transports, coucher vite les enfants, voire même se dépêcher dans les loisirs, parce que ça rapporte pas d'argent. Le problème, c'est que tous ces moments qu'on vit en accéléré, quand on se dépêche de faire les courses et qu'on est stressé, quand on court dans le métro, qu'on est stressé, est-ce que c'est vraiment des moments qui sont gagnés? Est-ce qu'on prend vraiment plaisir à se dépêcher? Est-ce que c'est une façon de vivre quand on passe 18 heures par jour à se dépêcher? Et à l'inverse, ce fameux temps gagné, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on travaille plus pour gagner plus, comme disait un certain président il y a quelques années? On vit dans une accélération constante avec l'impression de toujours grappiller quelques minutes par-ci par-là, mais quand est-ce qu'on profite de ce temps gagné? Et qu'est-ce qu'on en fait de ce temps gagné? Moi, j'ai un petit peu l'impression parfois que nous sommes en train de sacrifier notre qualité de vie sur l'autel de la productivité à tout prix. Donc, on va donner notre temps pour aider d'autres personnes à s'enrichir, plutôt que de profiter nous-mêmes de notre temps pour ce qui est vraiment prioritaire à nos yeux, à nous. Et c'est en ça que c'est la même chose que le minimalisme. C'est-à-dire que j'expliquais dans l'épisode précédent que dans le minimalisme, il y a l'idée de cesser d'acheter des objets sous une injonction externe, parce qu'on nous dit qu'il faut acheter ci et ça pour réussir. Et là, c'est la même chose. Cessons de laisser d'autres personnes nous dire quel temps est gagné et quel temps est perdu. Apprenons à nous écouter et à prioriser ce qui compte pour nous personnellement. Et ça, c'est un aspect hyper important du mouvement slow, à mon avis. Alors, pour être clair, choisir sur quoi il est important de passer du temps, ça peut très bien être travailler 60 heures par semaine parce que vous montez votre start-up ou parce que votre boulot vous éclate. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie absolue et on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de travailler. L'idée, c'est plutôt de savoir valoriser notre temps en fonction de notre priorité à nous, mais aussi en fonction des relations humaines, de la qualité de vie, etc. En gros, il n'y a pas que la rentabilité dans la vie. Donc ce mouvement slow, d'où vient-il? Alors personnellement, je l'ai découvert avec l'auteur Karl Honoré, qui a écrit un livre sur le sujet. Alors lui, ce qu'il raconte, c'est que c'est en considérant l'achat de comptes pour enfants en une minute qu'il a commencé à remettre son mode de vie en question. C'est-à-dire que s'il cherche à gagner du temps, même sur les moments passés avec ses enfants, ça sert à quoi de gagner du temps? Si le temps gagné n'est pas passé à profiter de ses enfants, on le gagne pour en faire quoi finalement? Donc c'est à partir de là qu'il s'est intéressé au mouvement slow, et donc ce fameux mouvement slow regroupe plusieurs concepts différents. Alors le premier concept, c'est le fait de trouver son juste rythme. Donc c'est l'essence du mouvement slow, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'aller le plus vite possible, mais après l'idée n'est pas non plus d'aller le plus lentement possible, de la même manière que le minimalisme n'est pas de posséder le moins d'objets possible. C'est de trouver son équilibre en fait. Et cet équilibre, ce juste rythme, change en fonction des gens, mais il change aussi en fonction du moment de la journée, il change en fonction de la saison, il change en fonction des périodes de la vie. Et en fait, le principe dans le slow, c'est de s'écouter. Écoutez votre énergie, écoutez votre corps, écoutez vos priorités, et apprenez à consacrer du temps sur ce qui compte vraiment. Et par exemple, le stress est une composante malheureuse de notre société moderne, et qui peut apparaître lorsqu'on n'est pas à son juste rythme, justement. Alors, bon, le stress, c'est très compliqué comme concept, c'est pas forcément que négatif, on en reparlera plus en détail dans des émissions à venir. Mais le fait de courir en permanence, et puis de se mettre la pression sur le temps qui passe, et le fait de se dépêcher, et le fait qu'on n'a pas le temps de tout faire, etc., ça crée un état de mauvais stress, qui peut avoir des conséquences catastrophiques sur notre santé, mais aussi sur notre rapport aux autres. Je me rappelle d'une amie qui m'a raconté une histoire un jour. À l'époque, elle habitait au rez-de-chaussée de son immeuble, et son appartement pouvait être confondu avec celui de la gardienne. Et c'était le 1er janvier, elle avait son bébé avait à l'époque à peine 8 mois, et un 1er janvier, à 7h30 du matin, son interphone se met à sonner comme un dingue. Et là, lorsqu'elle répond, il y a une nana au téléphone qui est là, en furie, qui explique que le portail du parking de la copropriété ne fonctionne pas, et qu'il faut absolument qu'elle aille travailler, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est en retard, qu'il faut trouver une solution. Et en fait, mon amie a beau lui expliquer qu'elle n'est pas la gardienne, qu'elle ne peut rien y faire, que c'est pas son problème, et qu'en plus de ça, elle est en train de réveiller son bébé de 8 mois un 1er janvier à 7h30 du matin, cette femme n'a rien voulu savoir, et elle l'a engueulée comme du poisson pourri. Donc vous voyez les effets que ce sentiment d'urgence peuvent générer sur notre comportement vis-à-vis des autres. Du coup, retrouver son juste rythme, c'est aussi lâcher prise sur cette course après le temps et apprendre à être plus calme, plus serein et savoir prendre le temps de ne pas brusquer donc les gens autour de nous, pas brusquer ses propres enfants aussi, par exemple. Donc voilà, c'est super important à ce niveau-là. Donc le fait de trouver son juste rythme. Un deuxième aspect qui est hyper important dans le mouvement slow, à mon avis, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que ralentir, c'est améliorer sa qualité de vie au quotidien. Parce que c'est savoir profiter davantage de ce que nous sommes en train de faire, au lieu de nous presser pour aller à la tâche suivante au plus vite, voire au lieu de faire plusieurs choses à la fois en espérant être plus productif et en faire plus, alors qu'en fait on n'en fait aucune bien et on n'en profite vraiment d'aucune. Comme dit Serge Marquis, profitez du spectacle. Donc si vous êtes devant une série télé en mangeant avec votre conjoint qui vous parle et en regardant le fil Instagram en même temps, je ne suis pas sûre que vous profitez de chacune de ces activités, je ne suis pas sûre que vous profitez de votre soirée. Dans le mouvement slow, l'idée, c'est de savoir en faire moins, mais de le faire bien. Donc si vous êtes sur Instagram, ne faites que ça et faites-le à fond. Pareil pour si vous êtes en train de dîner, en train de parler à votre conjoint, en train de regarder une série télé. En fait, à force d'être pressé par le temps et par cette injonction de productivité, on finit par courir toute notre vie sans jamais s'arrêter pour vivre. Et imaginez l'impact sur notre qualité de vie. On ne prend jamais le temps de rien faire, en fait. Du coup, avec le mouvement slow, l'idée, c'est de davantage profiter du moment présent. Lorsqu'on est en train de faire quelque chose, on le fait pleinement au lieu de se dépêcher. On est plus attentif, plus présent au moment. On remarque plus de choses, aussi bien sur ce qui nous entoure que sur nos propres sensations. On en profite davantage, on passe un meilleur moment. On fait aussi davantage attention aux gens qui nous entourent et on crée des liens qui sont de meilleure qualité avec les gens. Et ça, c'est vrai, même si le moment présent consiste à faire la vaisselle. C'est-à-dire que je suis profondément persuadée qu'on prend plus de plaisir à faire la vaisselle quand on est à fond là-dedans et qu'on profite des sensations de l'eau chaude sur les mains ou je ne sais quoi, plutôt que si on fait la vaisselle en se disant « Ah, ça fait chier, j'ai pas le temps, la vaisselle il marche pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la qualité de vie. Enfin, un autre élément qui est important dans le mouvement slow, et c'est là qu'on rejoint encore une fois le minimalisme qui a aussi une conséquence comme ça, c'est que ça permet de repenser ses priorités. Puisque en ralentissant, on se dit que, contrairement à ce que la société veut nous faire croire, ce n'est pas quelque chose d'enviable d'être tout le temps occupé, tout le temps par monts et par veaux, de jamais avoir le temps de rien faire, et du coup, eh ben, d'accepter qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et que du coup, il faut choisir ce qui est vraiment important. Et quand on y est, on place notre attention sur ce moment pour en profiter. Alors par exemple, vous n'avez pas forcément beaucoup de liberté dans ce domaine pendant vos heures de travail, mais un premier élément qui peut être fait, c'est de voir comment vous passez votre temps le soir, le week-end, en vacances, et partir de là pour trier les activités et choisir celles qui comptent vraiment pour vous et pour votre famille, pour prendre le temps de les faire bien. Plutôt que de vouloir tout faire et du coup de tout bâcler et de profiter de rien. Donc là, c'est vraiment hyper important parce que ça rejoint la notion de priorité dans la vie, sur quoi vous avez vraiment envie de passer votre temps. Voilà, donc je ne vais pas en dire davantage aujourd'hui puisque nous ne sommes que dans une présentation de la notion de slow. Il y a tellement de choses à dire que de toute façon nous en reparlerons dans de futures émissions de Simplicité. Et si vous avez des questions sur tout ce qui a été abordé dans ce thème du jour, surtout partagez-les avec moi parce que c'est aussi une manière de voir quels aspects de la question vous intéressent pour les émissions futures. Maintenant, pour la ressource du jour, je vais donc vous présenter le livre que j'ai mentionné précédemment, qui est Éloge de la lenteur par Carl Honoré. Donc en fait, c'est le livre par lequel j'ai découvert le mouvement slow. Donc comme je vous expliquais plus tôt dans le podcast, Carl Honoré, c'est quelqu'un qui s'est surpris à vouloir acheter un livre pour enfants où c'est des contes en une minute. Et qui s'est dit, bon sang, si j'en suis réduit à vouloir gagner du temps sur le moment où je couche mes enfants, c'est qu'il y a un problème. Donc à partir de là, il a commencé à s'intéresser au mouvement slow et il a écrit ce livre Éloge de la lenteur, où il parle un petit peu d'où vient ce mouvement, pourquoi il est important dans notre société en accélération constante et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie quotidienne de ralentir. Donc il va présenter les différentes facettes du mouvement slow. Par exemple, tout ce qui a commencé en Italie avec le mouvement slow food, qui consiste à prendre le temps de cuisiner et de manger de la bonne nourriture au lieu d'engloutir un McDo en 5 minutes. Il parle aussi des mouvements slow città, qui vient aussi d'Italie, qui sont des villes lentes, sans voiture au centre-ville, où finalement la qualité de vie des habitants prime sur la rapidité et sur la productivité. Et puis après, ben voilà, il détaille en fait les différents aspects du slow par domaine de la vie. Les effets sur le corps et la santé, l'amour, le travail, l'art du temps libre, les enfants et l'importance de ne pas leur imposer notre rythme effréné. Et enfin, il parle de rythme juste, qu'il appelle tempo giusto. Donc c'est trouver sa propre lenteur, s'écouter et vivre selon son propre rythme plutôt que de subir l'accélération constante de la société. Donc si le mouvement slow vous intéresse, je vous recommande chaudement cet ouvrage, qui est une bonne introduction à tout ce concept depuis sa genèse jusqu'à tous ses bienfaits dans divers aspects de notre vie. Donc, Éloge de la lenteur par Karl Honoré. Pour terminer l'émission, j'ai envie de partager avec vous une question qui m'a été posée suite à l'épisode 1 du podcast sur le minimalisme et les objets, et je trouve que ça soulève quelque chose de vraiment pertinent. On en reparlera plus en détail dans des émissions futures, mais en attendant, je vais vous présenter cette question et donc une première réponse que je peux y apporter si ça vous intéresse. Donc c'est Zizou qui pose la question de... Est-ce que la notion de minimalisme n'est pas contradictoire parce que d'un côté on vide sa maison et on achète des expériences plutôt que des objets, mais de l'autre on accorde plus de valeur aux objets? Donc en fait la question c'est quelle est la place de l'objet? Est-ce qu'on doit s'en foutre parce que c'est juste du matériel? Ou au contraire en prendre grand soin par respect des ressources utilisées, par respect des personnes qui l'ont fabriqué, etc. Donc je trouve que c'est une question qui est très intéressante car elle met en avant une contradiction apparente et surtout elle remet en question la place des objets dans le minimalisme. Alors pour répondre rapidement, je vous dirais que le minimalisme consiste à remettre les objets à leur juste place. C'est-à-dire que les objets sont là pour nous améliorer la vie, que ce soit en facilitant notre vie par leur utilité ou en la rendant plus agréable par leur esthétique par exemple. En d'autres termes, les objets ne sont pas un substitut de notre identité, ils ne représentent pas notre valeur, ils ne représentent pas notre niveau de réussite sociale, ils ne représentent pas un moyen d'appartenance dans un groupe. Tous ces besoins-là, qui sont des besoins humains, de sécurité, d'appartenance, d'amour, de reconnaissance, etc., ce ne sont pas des besoins matériels et ce ne sont pas des objets qui vont les remplir. Donc dans le minimalisme, rappelons-nous ce à quoi servent les objets et surtout ce à quoi ils ne servent pas. Ensuite, remettre l'objet à sa juste place, c'est aussi reconnaître la valeur qu'il apporte à notre vie. Dans la société consumériste, on a tendance à se focaliser sur l'achat. On désire quelque chose de nouveau, et une fois acheté, on va le mettre de côté, on n'en prend pas soin, il se détériore, voire on l'oublie carrément qu'on le possédait. Alors que dans le minimalisme tel que je le vois, l'objet n'est pas négligé. Au contraire, il devient une source de gratitude pour la valeur qu'il apporte à notre vie. Et puis parce qu'il a coûté des ressources, il a coûté du temps de fabrication, et puis de l'expertise des gens qui l'ont fabriqué, mais il a aussi coûté de notre temps pour le choisir, de notre argent pour l'acheter, et du coup je pense que c'est important d'en prendre soin. Mais en prendre soin ne signifie pas non plus hurler à la mort si on le perd ou si on le casse, c'est un équilibre en fait. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette question de la place de l'objet dans le minimalisme, mais c'est vraiment très intéressant, donc merci Zizou d'avoir soulevé le sujet, et on en reparlera très prochainement dans une émission future. L'émission touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette introduction au mouvement slow, de la vie plus lente et sereine. Vous retrouverez tout le détail des astuces et des ressources dans les notes de l'émission sur le site simple-cite.com/002, où vous pouvez également laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, @floriteller, F-L-O-R-I-E-T-E-2-L-E-R. Et si vous préférez communiquer en privé, vous pouvez envoyer un mail sur podcast@simple-cite.com. Si vous appréciez Simple et Cité, vous pouvez me soutenir en mettant une note sur iTunes, de préférence 5 étoiles, avec un commentaire sur ce qui vous plaît dans ce podcast. Cela aide d'autres auditeurs et auditrices à le découvrir. Partagez le podcast avec votre entourage et faites-le découvrir si vous pensez qu'il apportera de la valeur à d'autres personnes. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et à très vite !